puisqu'on est de retour dans la Caravane Studio. De retour, on n'était pas parti bien loin, à vrai dire. Mais on vous a laissé pendant un petit quart d'heure comme ça. Ce qui fait qu'on a pris un petit peu de retard sur notre planning. On accueille Amélie, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Émilie est toujours aux manettes. Et Amélie, donc avec tes invités, nous allons parler du Carnaval de Millau.
Voilà, Carnaval de Millau qui se tiendra le 18 mars, donc ça approche. Et pour certains, c'est déjà en route depuis un bon moment. Donc pour Chloé Rivenal de la MJC, bonjour.
Bonjour.
Et Aimé Loubier de l'association Peintres et Sculpteurs du Millavois, bonjour.
Bonjour.
Alors pour vous deux, le carnaval, donc c'est déjà en route depuis un bon moment. Comment ça s'est passé la préparation? Quel thème vous avez choisi cette année par exemple?
Alors le thème, pour l'instant, on ne l'a pas dévoilé, on ne va pas encore le dévoiler tout de suite. En tout cas, le carnaval de Millau se caractérise par le fait que ce sera toujours un animal totémique. Et depuis le début, c'en est au 17e carnaval, dont on a toujours choisi des animaux, un petit peu dans la tradition du carnaval occitan, où c'est un animal totémique. Alors l'animal, on peut le dire, ça va être un renard, avec ses caractéristiques, filou, enfin conteur, et
rusé,
des poules, des lapins. voilà, dans un bestiaire, voilà. Et il s'inscrit un petit peu dans un événement qui s'est passé dans la ville, dans l'année en fait. Le carnaval ne réagit pas toujours à chaud, on aurait pu parler de politique ou d'élection. Là, on a pris un thème donc, qui s'est passé dans l'année et à Millau, dans d'autres villes aussi, mais surtout sur Millau aussi. Donc, voilà.
D'accord, donc vous cultivez le mystère. Pourquoi choisir de le dévoiler au dernier moment comme ça?
Justement, c'est pour faire monter un petit peu la sauce aussi. Donc nous-mêmes, en fait, lorsqu'on on est en train de le fabriquer, donc c'est vrai qu'on on s'amuse, on rajoute des tas de choses. Donc sur le thème, dont avait le thème principal, donc on a choisi ensemble, dans un collectif, on y rajoute sans arrêt des petites choses. Donc il nous semble, voilà, de le divulguer petit à petit.
Et traditionnellement, en fait, un mois avant le carnaval, ben, on lance comme ça des pistes sur le thème. Et donc là, on a commencé par dire déjà que cette année, donc, tous en vert. Donc on invite les personnes à venir toutes vêtues de vert. Alors pourquoi le vert? Donc en fait, le vert, donc, pour la couleur de l'espérance, pour la couleur aussi de la Saint-Patrick. Parce que c'est une semaine britannique à Millau avec le comité de jumelage de Bridlington. Et donc, ils feront la veille à la Saint-Patrick, donc vert. Voilà. Donc, on verra parsemé donc, dans le carnaval donc, des petits lutins. On verra aussi, qu'est-ce que nous avons en vert, donc de la nature aussi pour l'écologie. Ou
en vert et contre tous.
En vert et contre tous,
vert,
voilà.
Aussi, ça, des blouses, blouses dans les hôpitaux. Enfin, voilà, le vert, chacun après.
Voilà, chacun peut mettre ce qu'il veut derrière la couleur verte. Voilà.
D'accord, ou les petits bonhommes verts.
Voilà, exactement.
Les petits martiens. Oui. Et alors, quelles autres animations seront prévues? Donc, il y a la construction du char que vous préparez du côté des peintres et sculpteurs du Millavois.
Oui, ça fait, il faut 2 mois à peu près pour fabriquer la mascotte, une vingtaine de personnes à peu près, donc par petits groupes. Hein, toujours dans des locaux pas très chauffés, mais bon, c'est une mascotte, toujours 3 mètres, on est limité par la porte du parc de la Victoire, donc vis-à-vis de la hauteur. Donc voilà, on le prépare depuis 2 mois, mais on a des réunions toute l'année avec le collectif.
Voilà, on commence la première réunion, le lancement du carnaval. C'est toujours fin septembre. Donc, c'est-à-dire que là, depuis le mois de septembre 2016, ben, on se réunit alors une fois tous les mois ou une fois tous les mois et demi, puis après un peu plus souvent. Là, en ce moment, tous les 15 jours à peu près, pour préparer donc, le carnaval. Donc il y a quand même un collectif qui est assez, depuis quelques années, ça sera la 17e là, avec un petit peu les mêmes personnes dans l'organisation. Donc on a donc, des artistes peintres et sculpteurs millavois. On a l'écho des Avennes, donc la fanfare l'écho des Avennes, la Batucada Samba Millau. On a la compagnie de la Manivelle, la compagnie Iliadsa. Donc la MJC, et on a aussi le groupe Pollen, donc, qui font partie donc, de ce noyau un petit peu sur l'organisation. Et ensuite, il y a des partenariats avec autres associations pour le jour J. Voilà. Donc cette année, en fanfare, nous avons des fanfarons qui viennent participer depuis plusieurs années. Hein. Philippe Monnier, donc, de l'écho des Avennes, a su fédérer pas mal de personnes autour de leur participation sur le carnaval de Millau. Donc cette année, nous aurons... l'écho des Avennes, la Batucada Samba Millau. Nous aurons...
Qui va défiler, donc.
Qui va défiler, ouais. Nous aurons la Diane Rouergat, Nous aurons le plaisir d'accueillir également la Bérésina.
De Saint-Sever.
De Saint-Sever, voilà, qui sont aussi des personnes qui viennent, qui sont venues plusieurs fois.
Mm-hmm. Pour la musique ?
Pour la musique, oui. Ce sont que des fanfares, là. Et nous avons aussi la grande fanfare, cette année, donc, qui vient spécialement. Alors, cette grande fanfare, elle regroupe beaucoup de musiciens, hein, de diverses et variées fanfares sur tout l'arc méditerranéen. Donc c'est vrai que Philippe Bonnier en parlerait beaucoup mieux, mais ils ne sont pas là, ils sont en train de jouer.
Alors justement, Chloé Rivemal et Méloubier, en quoi est-ce que le carnaval de Millau s'inscrit dans la tradition carnavalesque du sud de la France ?
Justement, d'abord parce qu'on va brûler. Et c'est vrai que dans les carnavals du Nord, on ne brûle pas, on sort des effigies, donc toujours, enfin les mêmes. Donc on
brûle, les géants, par exemple.
Les géants, voilà. Oui. Et donc en fait, le carnaval occitan, en fait, du sud de la France, il est beaucoup plus politisé aussi, en fait, hein, puisqu'en fait, il reprend une satire de la société. Il dénonce le pouvoir, en fait, qu'il soit des puissants, de l'argent ou des politiques, ou les dérives des politiques. Voilà, donc. Et ensuite, donc, nous, on s'inscrit dans le sens qu'on choisit un bestiaire. Donc, chaque année, on choisit un animal totémique différent, mais on est dans le côté animal. On fait représenter à l'animal le mal de la société, quoi. Donc,
Ça se rapproche, par exemple, de l'histoire de l'ours dans les Pyrénées
ou... De l'ours dans les Pyrénées, de l'âne, certains, voilà, donc, où ils ont des animaux totémiques, mais chaque année, c'est l'ours dans les Pyrénées, voilà, donc. Alors, le carnaval occitan évolue, a toujours évolué, donc nous aussi, on le fait évoluer. Donc, on a choisi au départ les animaux, justement, parce que on pouvait avoir plusieurs publics, c'est-à-dire, on a plusieurs images, on a plusieurs, où les enfants peuvent y voir, en fait, un monde magique, peut-être, avec les animaux, mais les parents peuvent y voir autre chose, puisqu'en fait, c'est pas caché, et il y a moyen aussi de discuter, les parents peuvent expliquer, parce que parfois, il peut y avoir des scènes érotiques, ou des scènes provocantes, donc, bon, c'est aux parents après à expliquer le pourquoi de la chose, éventuellement.
Et quel rôle vous voulez donner au public, du coup, étant donné que c'est vous qui fabriquez le char, est-ce que le public peut venir avec son propre char ? Quel rôle vous lui donnez dans cette politisation du carnaval ?
Alors, on souhaiterait une plus grande implication même du public, c'est-à-dire c'est vrai que nous proposons une journée, et ensuite c'est vrai qu'on souhaiterait que le public s'en empare, ils peuvent venir avec leur propre char ou leur propre déguisement, venir en groupe pour justement festoyer. En fait, on voudrait que ce carnaval, et on veut que ce carnaval ne soit pas une attraction, il faut que ce soit participatif, il faut que ce soit en fait, que le mis à voir se l'approprie, venir en groupe, pour aussi peut-être dénoncer quelque chose aussi, en fait, voilà, et venir s'amuser surtout, avant tout.
Et même dans l'organisation, c'est vrai que ça fait deux ou trois années consécutives qu'on fait un appel sur la presse pour inviter les personnes qui le souhaitent à venir participer aussi à l'organisation en tant que bénévole.
Alors pour autant, on l'a dit tout à l'heure, le thème est donné au dernier moment, donc quitte à ce que le public dénote avec le thème choisi, alors c'est-à-dire une participation qui peut-être irait de travers ou en parallèle par rapport à ce que vous faites.
Oui, non, c'est. Je pense au carnaval, d'abord, on se masque. On peut se masquer, on peut se grimer. Donc, des fois, on ne reconnaît même pas, on peut se pas reconnaître. Donc, chacun est libre, en fait, de tout. Le thème, en fait, c'est vrai, c'est le comité qui le choisit. Justement, le public, en fait, le public, c'est les participants, parce que le public, justement, c'est un petit peu trop passif. Il faut qu'il s'approprie cette journée-là, quoi. Donc, il y a le thème, mais non, on n'est pas obligé de coller au thème.
Oui, liberté.
Voilà. Pour avoir encore plus de liberté.
Et qu'est-ce qu'il en est de la place dans la ville de ce carnaval ? Comment vous voyez ça ? Comment vous voyez le rapport à la ville
Alors dans la tradition, peut-être aussi le fait que la mascotte, donc pour nous, est aussi soit montrée, soit exposée aux yeux de tous.
Oui.
Et donc ce pavane, enfin bon, se promène dans la ville. Donc il y a aussi ce côté-là. Donc c'est vrai que ça doit être, c'est important que tout le monde puisse voir la mascotte dans la ville.
Ça va être une journée de liesse, en fait. Hein. C'est-à-dire que chacun a quelque chose, en fait, à brûler, au fond. Hein, puisqu'en fait, au final, ça va partir tout en flamme. Donc, hein, le carnaval, c'est ça. C'est, on passe du printemps, on change de saison, on laisse tout derrière soi et on essaie de recommencer. Voilà, donc. Et chacun, justement, vient avec tout ça à lui, en fait.
Eh bien, merci Aimé Loubier et donc Chloé Rivenal pour la MJC et l'Association des peintres et sculpteurs du Millavois qui organise donc le carnaval le 18 mars prochain. Oui, vous avez quelque chose à rajouter ?
Juste, là, cette année, c'est vrai que on est confronté donc à gérer des choses, en fait, en l'occurrence sécuritaires. Donc le carnaval donc, a lieu, déjà a bien lieu puisqu'on fait cette émission-là.
Il était remis en doute ?
Il aurait pu être remis en doute, il a été, c'est compliqué, donc il sera légèrement écourté, mais avec toutes les sécurités qui ont été prises.
Nécessaires et pour que chacun se sente soit sécurisé. Donc on donne un rendez-vous à 16h30 sur la place du Mandarou. Alors il n'y aura pas moins d'animation, mais on partira du Mandarou jusqu'au Parc de la Victoire où aura lieu le jugement et la crémation. Donc on écourte quand même la partie sur voie publique. Voilà. Mais voilà, plein de surprises encore, hein, puisque chaque année aussi on maintient la surprise jusqu'au jour J.
Très bien, merci beaucoup à tous les deux.
Merci
à vous.
Et on enchaîne avec une petite pause musicale de ton choix, Émilie. Je ne sais pas laquelle.
Oui, je prends mon micro, on va écouter Bob Marley.
Super, merci.
Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Larzac. On est toujours dans la caravane studio sur le marché de Millau, en direct, presque en public.
Il y a un peu de public, il y a Céline qui est là dans un coin avec son café.
Voilà.
On a l'invitée suivante qui nous a déjà rejointe aussi.
Et Amélie, je vais te laisser le présenter.
Eh bien, donc l'invité du moment, c'est Fabien Dubessy. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous présentez l'exposition Douce Nature en ce moment au passage à l'art de rue Droite à Millau jusqu'au 26 février, donc jusqu'à ce week-end. Et donc c'est les derniers moments pour aller voir cette expo que personnellement je recommande. Alors elle s'appelle Douce Nature parce que donc, ce sont des photographies de nature. Alors ma première question, c'est tout simple, c'est où est-ce qu'elles ont été prises ces photos?
Alors, ces photos ont été prises à chaque fois à côté de mon domicile, sauf que mon domicile a été très très changeant. Donc c'est de la photo locale, mais qui s'est un petit peu exportée quand même. Donc toutes les photos sont faites en France. Alors il y a des photos qui viennent de la Drôme, du Rhône, du Var, des Deux-Sèvres. Je me demande si j'en ai pas une de Bretagne aussi. En fait, je suis amené à déménager tous les 3 mois, 6 mois, 1 an, ça dépend. Donc voilà, à chaque fois quand je pars faire des photos, je pars à pied, je prends pas la voiture, je vais pas à 50 km pour faire mes photos. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a autant des oiseaux marins qui côtoient par exemple un cerf que j'ai photographié dans le Vercors.
D'accord. Alors le processus, du coup, il est basé sur la découverte. Si vous partez à pied, sans savoir où vous allez, ou alors vous avez une idée précise?
C'est très variable. En fait, souvent en photo nature, il y a deux procédés. Il y a ou de l'affût, donc ça nécessite souvent du repérage, plusieurs jours à l'avance. Revenir aux mêmes heures, à différentes heures, se mettre à distance, observer, repérer les habitudes des différents animaux. Et après, placer un affût qui, selon les espèces, il faut encore mettre longtemps à l'avance pour que l'affût soit intégré, parce que c'est un petit peu une verrue dans le paysage, donc il faut que les animaux prennent l'habitude. Ou alors ce qu'on appelle la billboude. Donc la billboude, c'est justement, on part avec l'appareil photo et puis on voit ce qu'on peut ramener. Ça fait pas les mêmes photos, parce que souvent on n'a pas la même proximité, on peut pas s'approcher par exemple, je sais pas moi, d'un renard à 5 mètres comme ça, si on est juste sans affût, sans rien. Alors qu'un affût qui est posé à l'avance, les animaux, si on l'a bien placé, ils peuvent passer vraiment très très proche. Donc ce que je fais régulièrement, c'est de la billboard. Donc je pars avec un objectif ou plusieurs, selon ce que j'ai envie, selon le moment. Pas toujours avec une idée en tête. Souvent ça va être la photo opportuniste. Alors je vais plus ou moins cibler, c'est-à-dire par exemple je peux prendre le téléobjectif si j'ai envie de faire une photo d'oiseau. Si j'ai repéré, je sais pas, par exemple j'ai une photo en tête d'un rossignol, je l'entendais toujours au même endroit, je sais que ce rossignol il est là. Du coup j'y suis retourné, sachant qu'il n'est pas forcément évident à voir, mais je savais qu'il était dans ce buisson là, donc ça, dans ce cas-là, c'était un but précis. Sinon, c'est selon les rencontres. Alors, dans certains cas, je vais emporter par exemple un panel d'objectifs qui va me permettre de faire autant du paysage, de la macro, de l'animalier, et je verrai en fonction des rencontres.
Et cette technique de billboard, est-ce que ça vous permet de réaliser des séries photographiques, ou est-ce que c'est plutôt l'image que vous visez?
Non, ça peut être des séries. Après, le problème, entre guillemets, parce que ça n'est pas vraiment un, mais c'est que toutes les images vont être quand même assez différentes d'une journée sur l'autre, parce que c'est pas parce que j'ai rencontré tel oiseau, donc je fais principalement de la photographie d'oiseaux, c'est mon métier de base, c'est l'ornithologie, enfin mon premier métier. Donc si je rencontre, admettons, je sais pas moi, une espèce, un traquet motteux sur telle pierre, tel endroit, c'est pas dit que le lendemain je retrouve au même endroit. Donc ça va être compliqué de faire une série sur cette espèce là sans faire d'affût. C'est alors qu'avec l'affût, si on l'a posé à un endroit, un des problèmes va être qu'on aura toujours les mêmes lumières, bon, selon la journée, mais les mêmes angles, les mêmes orientations, mais on va pouvoir faire une série sur le mouvement, sur une attitude de prédation, sur des jeux amoureux, sur plein de choses. Donc voilà, les deux Les deux méthodes sont complémentaires. Après, personnellement, je fais plutôt de la billboard. C'est une méthode qui me rapporte déjà un petit peu plus de photos. Pas forcément toujours les mieux, je sais pas. Mais dans laquelle je me retrouve plus et je me fais plus plaisir. Voilà.
Alors, il y a quelque chose d'intéressant qui émane certainement de cette technique, c'est que vous prêtez une grande attention au cadre, enfin on sent la mise en scène de la nature dans vos photos et justement où est placé le sujet, parfois il n'y a même pas de fond derrière, il est comme détouré de son paysage quoi. Alors déjà comment vous faites et puis pourquoi ce choix, est-ce que c'est les photos sont retouchées et pourquoi vous avez eu envie de faire comme ça?
Alors il y a premièrement, le fait que ça donne un aspect retouché, c'est uniquement de la technique photo. Au niveau retouche, je fais rien.
Vous voulez dire la technique de prise de vue?
De prise de vue, voilà. Les choses que je fais par ordinateur sont les mêmes choses qu'on pouvait faire à l'argentique. C'est-à-dire que je recadre si mon horizon n'est pas très bien ou si voilà, j'ai un peu bougé, je vais recadrer. Ensuite ça va être du contraste, éventuellement la luminosité, peut-être un peu plus clair, un peu plus sombre si mes réglages n'étaient pas vraiment au top au moment de la prise de vue. Donc quand il y a du flou, c'est du flou qui est fait à la prise de vue. Quand il y a un vide, c'est qu'il y a un vide. Et inversement, quand il y a des grosses taches, notamment la photo du cerf où il y a plein de taches colorées, cette photo intrigue beaucoup, ben en fait c'est que devant j'ai un buisson qui est en dehors de la zone de profondeur de champ. C'est en automne, donc il y a des couleurs qui sont orangées, et le fait d'être en sous-bois, j'ai éclairci ma photo, donc là c'est à la prise de vue, donc j'ai surexposé, et ça donne des couleurs qui sont assez flash, mais c'est à la prise de vue. Et ensuite, quand notamment il y a du vide, donc il y a deux photos, voire trois, notamment dans l'expo où on a cette impression-là, il y a un flamant rose, on a l'impression que c'est complètement détouré, ça donne vraiment ça, parce que c'est du blanc pur qu'il y a derrière, alors qu'à côté il y a une bergeronnette grise qui, elle, est sur un fond qui est gris très très clair. Et là, c'est toujours à la prise de vue, mais dans deux conditions complètement différentes. Le flamant rose, c'est en plein soleil. Donc souvent, on dit pour la photo nature, il faut sortir le matin tôt et le soir tard, c'est là où il y a plus d'animaux, la lumière rasante, c'est magnifique. Oui, mais on fait un type de photo. Si on sort à 3h d'après-midi en plein été, on va faire un autre type de photo. C'est plus compliqué à gérer, il y a d'autres difficultés, mais on peut faire autre chose. Ce flamant rose, j'aurais jamais pu le faire autrement. Donc là, c'est en plein soleil, sur une lame d'eau. Donc en fait, quand on se met face à une lame d'eau au soleil, c'est très éblouissant. Donc là, c'était le cas. Et j'ai surexposé ma photo. Si j'avais fait une photo classique, j'aurais eu un fond gris avec une silhouette noire. Donc le fait de surexposer, mon fond gris devient blanc et ma silhouette noire devient détaillée. Et là, il faut gérer les réglages justement pour pas que le flamant rose, lui, perde tous ses détails. Et ensuite, l'autre photo, donc qui est à la gauche, la bergeronnette grise, c'est complètement l'inverse. Pour le coup, donc c'était un matin, avec une forte brume sur la rivière. Et donc là, plutôt que me mettre perpendiculaire au cours d'eau, je me suis mis dans le sens du cours d'eau, pour pas qu'il y ait une berge juste derrière qui vienne s'imprimer sur ma photo. Donc ça se perd dans le vide, dans la brume, et tout simplement. Et là, il n'y a rien de particulier, une légère surexposition à la prise de vue, mais c'est tout. Et on a deux effets quasiment similaires, avec un blanc pur ou un gris très très clair, avec des conditions de prise de vue qui sont complètement différentes.
Alors, depuis quelques temps, on assiste à un regain d'intérêt important pour la photographie nature. Cette photographie que vous pratiquez, Fabien Dubessy, comment est-ce que vous expliquez cet intérêt-là?
À mon avis, il y a deux raisons. Qui est assez technique. Je doute que ce soit vraiment pour un intérêt nouveau pour la nature, parce que c'est pas nouveau, c'est forcément. Il y a le passage au numérique il y a une quinzaine d'années, qui rend la photo plus facile, moins chère, parce que maintenant, avec un appareil même entrée de gamme, on peut faire des super photos. J'ai certaines photos qui sont faites avec un boîtier assez classique. Donc il y a voilà, le passage au numérique et le prix du matériel qui est moins cher. Les deux font qu'on peut investir maintenant dans un tel objectif, un 400 mm. Il y a des marques autres que du Canon et Nikon qui coûtent une fortune et qui ont des très bons résultats. Et du coup, voilà, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se mettent à la photographie nature suite au fait que c'est juste plus abordable qu'avant.
Alors ça, c'est pour la pratique, mais il y a aussi un intérêt du point de vue du spectateur.
Mais ça, je sais pas s'il y a un... Je ne ressens pas forcément un changement depuis quelques... Enfin, bon, ça fait une dizaine d'années, où il y a un meilleur intérêt du spectateur. Parce que ça va être... moi, je vois ceux qui regardent les photos, souvent, ils pratiquent un petit peu. Ils vont se dire, bah, j'aime bien la photographie nature, j'en fais un petit peu. Et bon, bah, voilà, j'aime bien les photos de tel photographe, je suis le travail. Je... Voilà. Mais il y a souvent une petite pratique avec... Je ne sais pas si vraiment il y a, plus d'intérêt maintenant qu'avant, en dehors de ceux qui pratiquent un petit peu.
Alors, vous nous avez dit que votre premier métier, c'était l'ornithologie. Ouais. L'usage de la photographie en ornithologie a pris aussi une place importante. Mmh. On a l'impression qu'il y a aussi tout un réseau. On voit beaucoup sur Internet, voilà, des échanges de photographies, des gens qui pratiquent l'ornithologie à différents niveaux, hein, mmh. aussi bien en amateur qu'en professionnel, qui échangent des choses comme ça. Est-ce que...
Oui, bah, en fait, on en revient au fait que justement, il y a plus de personnes maintenant qui font de la photographie. Il y a différents thèmes qui attirent, j'ai l'impression, le plus. Il y a les oiseaux. Alors pourquoi, je ne sais pas. Peut-être parce qu'on en a tous facilement dans le jardin, qu'il y a une grande diversité d'espèces. Il y a un attrait quand même pour les oiseaux. Et après, ça va être pour la macro.
C'est difficile à capter aussi.
Oui, aussi, oui. C'est vrai qu'ils ne sont pas tous évidents. Et après, il y a la macro-photographie où là, c'est principalement parce que, à mon avis, on arrive à avoir un rendu plus facilement. Parce que justement, il y a plus ce défi de courir après un champignon. En général, on y arrive. Et après, on a plus le temps de créer. Il y a un côté plus créatif. Et donc, effectivement, pour la photographie nature et notamment la photographie d'oiseaux, il y a petites communautés, notamment sur des réseaux sociaux, sur Facebook, où il y a du partage de photos. Donc, pas mal de personnes font des photos d'oiseaux sans savoir ce que c'est. Donc, ça permet de faire des identifications et de se former à l'ornithologie. Donc, c'est ou l'ornithologie qui permet de se former à la photographie, ou la photographie qui permet de se former à l'ornithologie. Après, il y a beaucoup de photos qui sont assez naturalistes où on voit des détails, donc là ça va servir l'ornithologie.
Alors, je reviens sur votre travail et sur les photos donc, qui sont exposées. Il y a un aspect très pictural de ce que vous, enfin, sur ce que vous faites, et je voulais savoir s'il y a des inspirations particulières qui vous disent qu'il faut faire les choses de telle et telle façon, puisque ça donne, enfin, à l'œil, ça donne un effet, oui, assez pictural, on dirait de la peinture parfois.
Ben, j'essaye. Alors, je sais pas si c'est une bonne chose. Jusque-là, j'essayais de pas m'inspirer justement de personnes. J'essayais de pas regarder le travail d'autres photographes. Ça, c'était le cas jusqu'à, on va dire, à l'été dernier. Ou le fait de voir quelques photos, même si on ne veut pas refaire exactement la même, il y a l'inspiration, ça reste en tête, et au moment de déclencher, j'ai l'impression que c'est plus vraiment moi qui fais la photo. Donc pendant longtemps, ouais, je me suis forcé à ne pas regarder les autres photographies, donc je ne pourrais pas dire si vraiment j'ai des inspirations, certainement parce qu'on envoie des photos, et même sans aller sur les sites internet ou autres, ou se déplacer en exposition de tel ou tel photographe, obligatoirement il va y avoir de l'inspiration. Maintenant, donc là, j'expose de plus en plus en festival, donc je vois le travail des autres, et c'est ce que je craignais, j'ai un petit peu une barrière. Maintenant, j'ai plus envie de faire ça parce que ça s'est fait, j'ai pas envie de faire ça parce que ça s'est fait. Et voilà. Mais on peut pas rester dans sa bulle non plus tout le temps et se dire je fais juste mes photos sans... Et puis c'est malgré tout important de voir ce que font les autres, mais... J'ai eu cette période-là où justement je voulais rester dans ma photo.
Pour l'avenir justement, qu'est-ce que vous avez comme projet ? Est-ce que ce sera toujours sur la nature ? Est-ce que vous avez des envies particulières ?
Alors, toujours sur la nature, un style qui risque de changer, parce que la douceur dans la nature, ça m'a plu un moment, ça continue un peu, mais je sens que je suis en train d'évoluer sur autre chose, je ne sais pas exactement. J'ai un projet associatif, donc c'est pour ça que je suis sur Millau en ce moment, sinon je suis originaire du Rhône, sur les vautours. Donc là je suis en train de faire un projet sur les vautours de sensibilisation, notamment via l'image, également une mallette pédagogique pour les enfants et des conférences temps d'échange sur leur présence déjà, parce que bon, ici il y en a, mais quand on fait quelques centaines de kilomètres il n'y en a pas, et les gens ne savent pas forcément qu'il y en a en France. Et une exposition également photographique où là on partira sur complètement autre chose, donc plutôt des gros plans, du noir et blanc, plus ou moins contrasté, donc rien à voir avec celle-ci. Pas dit que mon travail personnel sera dans la même lignée plus tard, mais pour ce travail associatif en tout cas ce sera ça.
Voilà, donc on rappelle cette exposition qui se termine à Passage à l'Art. Et puis on peut suivre votre actualité sur votre site internet, voilà. fabiendubessy.fr, et également sur les réseaux sociaux.
Exactement.
Eh bien, merci d'être venu.
Merci à vous.
Nobody seems to be on the run. Oh, there is fire on the mountain top, and no one is running. I wake up in the morning, tell you what I see on my TV screen. I see the blood of an innocent child, and everybody's watching. Now I'm looking out my window, and what do I see? I see an army of a soldier man marching across the street. Hey, hey, Mr. Soldier Man, tomorrow is the day.
caravane de Radio Larzac. On est toujours en direct du marché pour encore quelques minutes. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de se dépêcher avec cette dernière invitée. Bonjour Claudette
Bonjour.
Lavabre.
Bonjour.
Alors vous êtes venue nous parler d'un spectacle que propose l'ASA ATP en co-accueil avec le Théâtre de la Maison
non,
du Peuple.
Pas, non, c'est pas en co-accueil. C'est un des spectacles que nous portons seuls, l'ASA ATP, dans le cadre de la tournée de la Fédération des ATP.
D'accord.
C'est la coproduction qui a été choisie par tous les ATP et qui est aidée par le ministère qui donne 25
par
000 euros.
C'est ça, l'Office National de Diffusion.
Non, c'est encore autre chose.
C'est encore autre chose, d'accord.
C'est, en fait, c'est ce qui fait la spécificité des ATP, la Fédération des associations du théâtre populaire. Chaque année, nous sélectionnons sur, à partir d'une quinzaine de projets qui nous sont envoyés en lecture, avec un dossier conséquent sur les intentions de mise en scène, un budget très précis. Et là, le projet qui est retenu, suite à des votes, au vote de tous les ATP, à l'aide du ministère, c'est une aide à la création contemporaine, à l'écriture contemporaine.
C'est donc c'est une commande en quelque sorte ?
Pas une commande, parce qu'il faut tenir au chaud le fer auprès du ministère et des services. Bon, vous le savez, ça change sans cesse le personnel dans les ministères en fonction des changements politiques. Donc le président de l'association, de la fédération, est très présent dès qu'il y a des changements pour maintenir ce lien, parce que ça représente tout de même 25 000 euros donnés par le ministère à la compagnie qui est sélectionnée. Et cette compagnie s'assure la totalité de la tournée des 16 ATP de France. Ce qui veut dire que les ATP, nous sommes par ce biais-là parmi les structures qui est dans la création contemporaine à une hauteur non négligeable. Et c'est une véritable chance pour les équipes artistiques qui sont sélectionnées. Donc c'est dans ce cadre-là, c'est pour cette raison que nous ne sommes pas sur les coproductions en co-accueil avec la ville. Donc c'est uniquement l'ASA ATP qui porte ce projet,
voilà,
qui est en tournée en ce moment à travers les ATP.
Donc pas de co-accueil, donc, mais ça se passera quand même au Théâtre de la Maison
voilà,
du Peuple.
Puisque
ça, ça intéresse en premier lieu les spectateurs. Ce sera mardi 28 février à
20h30.
Et le spectacle, ça s'intitule Ogre.
Alors, au pluriel.
Au pluriel, voilà. Alors pourquoi ce titre-là, Ogre ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce titre ?
Ouais, quand on dit Ogre, on a tous à l'esprit le conte.
Évidemment.
C'est donc, ça fait partie de notre paysage, le paysage de l'enfance. Et l'ogre, ça éveille les peurs. Voilà, donc, qu'est-ce que c'est que l'ogre ? Si vous voulez, c'est une image, une métaphore pour désigner l'homophobie. Dire que les personnes victimes d'homophobie ont l'impression de se battre contre des ogres. Et le projet est parti de faits divers. C'est un projet qui, à la lecture des textes, nous ont totalement déroutés, dérangés, nous ont fait peur. Parce que l'auteur c'est Yann, ce sont deux jeunes
Verburg,
créateurs.
Donc.
Oui. Il est parti sur Internet à la recherche de faits divers sur des actes d'homophobie dans le monde entier et dans le monde d'aujourd'hui, hein, c'est contemporain. Voilà. Donc, il a fait une compilation dont le texte est brut de brut, très dérangeant, c'est terrifiant, parce qu'on voit des situations d'homophobie, mais insupportables, comme on les voit dans les faits divers. Hein, bon. À partir de là, on s'est dit, oh là là, mais comment porter cela au théâtre, moi ?
Oui, c'est la question.
Quelle mise en scène ?
On avait à voter pour un texte sur les 15 projets en concurrence. Et là, on n'avait pas sélectionné ce texte, nous, les ATP de Millau. Il s'avère qu'ils ont été sélectionnés par quelques ATP, puisqu'ils sont arrivés dans les 5 premiers. Et donc, la règle de ce parcours de coproduction des ATP... En décembre, premier week-end de décembre, nous sommes accueillis à la Chartreuse Les Avignons, qui est un lieu d'écriture contemporaine, qui accueille toutes les ATP pendant le week-end et les équipes artistiques qui ont été présélectionnées, les 5 équipes qui sont accueillies.
Donc là, il y a une forme d'audition, comment
oui,
ça se passe?
Oui, alors, sur 2 jours, puisque c'est un week-end, chaque équipe artistique présente devant tous les ATP réunis leur projet. Ils ont toute
avec un échantillon de la mise en scène peut-être
assez variable. C'est là où la règle du jeu elle est terrifiante parce que selon les équipes, il y a ceux qui se donnent toutes les chances, ceux qui ne se donnent aucune chance. Par exemple, il y en a qui croient bien faire. Alors selon la dans le groupe de travail, le groupe, la compagnie, il y a la personne, le référent dominant. Ça peut être l'auteur qui lui va vouloir lire son texte, qui va confier la lecture du texte à des comédiens qui, s'ils sont mauvais, c'est rédhibitoire, on ne va pas retenir ce projet. Ça peut être le metteur en scène, qui est le leader du groupe, et lui là, parce que le théâtre, c'est du texte mis en représentation, et on n'attend pas une lecture basique d'un texte. On veut voir,
C'est du texte en volume, en quelque sorte.
Oui, il y a X façon de parler de... Moi, je dis du texte en représentation, mais c'est fascinant, et c'est ce qui fait la spécificité du théâtre. Et pour moi, le théâtre peut tout montrer, tout.
Voilà. Donc, il faut, pour les compagnies, passer cet obstacle...
Voilà, alors, ils ont présenté...
Des auditions.
Alors que des équipes comme les ATP de Millau, on n'avait pas retenu ce texte, ils ont eu la majorité.
Donc, c'est le projet qui a été retenu. En quelque sorte, ils vous ont
convaincu. Par la mise en scène.
Parce que c'était magnifique. La façon dont ils ont présenté leur travail. On était dans le conte et dans la fable. Et l'ogre, il nous renvoie à la forêt. Donc, cette forêt, elle est omniprésente dans la mise en scène.
Et alors pardon. Le dossier de presse annonce 28 scènes, 14 destinations, 30 personnages. Est-ce que pour autant ça en fait une pièce à sketch ?
Pas du tout. C'est là le génie de l'artiste, du monde du théâtre. Parce que l'on a des créateurs. Et donc sur le site de la compagnie, il y a une interview de Yann, l'auteur, une interview du metteur en scène et l'interview de Hungen. Il est d'origine roumaine, il est directeur artistique, hein, c'est dire le titre.
Metteur en scène, oui. Engen Jebelanu.
Oui, mais dans les fiches,
d'accord.
C'est beaucoup plus au-delà. Directeur artistique, donc il a un rôle clé. Il est avec Yann, ce sont les deux piliers, ils travaillent ensemble, ils s'entendent, ils sont formidables. Quand on voit des jeunes créateurs à ce niveau-là, c'est un enchantement. Et on leur a fait confiance et on a vu la création fin janvier à la Chartreuse. C'est une réussite, c'est magnifique. Alors, ils montrent, moi, on ne peut pas cacher qu'il y a des scènes qui sont très dérangeantes dans le spectacle. Mais il y a un fil conducteur. Donc,
qui relie chaque fait divers.
Dans un fil conducteur, c'est l'histoire de Benjamin. C'est la victime d'un acte d'homophobie qui s'est passé en France, à Rouen, en Normandie. Et on va suivre son histoire. Il y a donc, et c'est fascinant parce qu'on voit là une grande maîtrise de l'objet théâtre par le directeur artistique. Ils ont énormément travaillé à partir du texte. Comment ils ont changé par rapport à la chronologie du texte. Et c'est une parfaite réussite. Et on va aller d'une violence la plus terrible. Et progressivement, le fil, c'est de nous amener à revoir nos préjugés, à nous remettre en question totalement. Et à nous amener vers une acceptation des différences. Hein, et ça se termine sur un message d'amour. Le travail sur les éclairages, sur la musique, participe de ce chemin du chaos absolu. Parce qu'il y a des scènes, c'est très dur, hein, il faut que le public soit prévenu. Mais le but, c'est de nous aider à regarder une réalité que l'on repousse parce qu'on ne veut pas voir, parce que ça remet tellement en question le fonctionnement le plus ordinaire de nos comportements, hein, concernant l'homophobie. Voilà donc. Et puis il y a c'est magnifique. Bon, je voilà. Il faut le dire,
la dureté des scènes n'obère pas la beauté du spectacle.
C'est difficile d'en parler.
Voilà. Donc, on rappelle donc Ogre, une coproduction de la Fédération des ATP.
Associations du théâtre populaire.
Voilà. Et donc, avec une équipe fantastique, hein, aussi bien à la mise en scène qu'à l'écriture, qu'à la création lumière, à la création musicale, et puis évidemment les comédiens. Alors, ce sera à retrouver le mardi 28 février à 20h30 au Théâtre de la Maison du Peuple. Plein tarif, 18€. Des tarifs réduits, évidemment, pour les adhérents de la SAATP, mais aussi pour la MJC, les abonnés du théâtre, les élèves des écoles de danse, de musique, etc.
La billetterie, peut-être.
Donc, de 17h à 19h, le lundi 27 février, dans le hall du théâtre, et dès 18h, le mardi 28 février, donc le jour du spectacle. Voilà. On vous souhaite un bon succès pour cette représentation. Merci Claudette Lavabre d'être venue nous en parler à la caravane.
C'est un spectacle qui nous paraît essentiel et qu'il faut venir voir. Et c'est un grand, grand moment de théâtre.
Et c'est pour ça qu'on souhaitait en parler.
Merci.
Ben
on va se quitter. Voilà, il est midi passé. Ouais. Donc, on dit au revoir à tous nos auditeurs. On remercie encore une fois
tous nos invités
de la matinée. Gilles aussi qui était là pour le conflit de canards en première partie de matinée. Merci Émilie pour la technique, la programmation musicale. Merci à Nico aussi qui est venu pour l'installation. voilà. Et puis merci Amélie.
Ben merci Nicolas.
À très bientôt et bonne journée à l'écoute de Radio Larzac. Et on précise quand même que demain à 14h, il y a l'Assemblée Générale de Radio Larzac. C'est ouvert.
Adhérents, non-adhérents, voilà, bénévoles, non-bénévoles, si venez curieuse. Tous.
Si vous voulez venir voir, écouter ce qui nous agite à la radio en ce moment, ben c'est le moment. Ce sera à la salle galerie du Créa. Voilà.
À
14h.
Prochain rendez-vous la semaine prochaine à midi pour l'actu sur un plateau.
Évidemment.
Et on se quitte avec Ézéchiel.
Ouais.